Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine réalisé depuis le site de la grotte de Chourange dans les gorges de la Bourne. Un décor pour le moins impressionnant et c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de réaliser des plateaux comme ça avec un tel éventail de reliefs et puis aussi la très belle vallée de la Bourne qui va nous accompagner au cœur de cette discussion avec Justine de la grotte de Chourange. Bonjour Justine.
Bonjour.
Et Antoine, guide.
Bonjour.
On rappelle Justine que vous êtes chargée de communication référente du site de la grotte. Et c'est en ces termes que nous vous aborderons pour découvrir un petit peu toutes les généralités, ce qu'il faut savoir avant de se préparer à une visite. Juste avant l'annonce de nos partenaires qui nous accompagnent durant tout cet été 2023, je pense au musée de l'eau de Pont-en-Royan, le grand séchoir maison du pays de la Noix à Vinay, la maison musée de Roche-Chinard, le mémorial de la résistance à Vassieux, le musée de la préhistoire du Vercors et le musée de la résistance à Vassieux, le jardin des fontaines pétrifiantes, aussi partenaire des grottes, à la Saône, la grotte de Thaïs et le bateau à roues à Saint-Nazaire en Royan, bien sûr la grotte de Chourange. Et côté festival, festival texte en l'air à Saint-Antoine-l'Abbaye, le festival des chapelles en Royan-Vercors et les offices de tourisme Vercordrome, ainsi que le site Indians Valley à Bourgard-Barré. Justine, nous allons prendre connaissance en votre compagnie des généralités quand on arrive à la grotte de Chourange, comment s'y prendre, notamment pour l'accès au site, puisque nous sommes venus en voiture, on avait un peu du matériel, mais ceci dit, il y a d'autres alternatives pour monter à la grotte.
Alors il y en a d'autres, si vous appréciez notamment de marcher, vous pouvez venir depuis le village de Chourange où vous pouvez en effet emprunter un sentier de randonnée. Il y a environ 45 minutes à peu près à parcourir pour arriver à la grotte de Chourange. Vous pouvez également venir en vélo si vous êtes un petit peu sportif car la route des grottes est légèrement en montée. On a notamment des bornes de recharge pour les vélos électriques qui sont gratuites si jamais vous venez avec ce moyen de transport. Et malheureusement pas beaucoup d'autres car on est quand même assez excentré, on n'a pas de navette ou de bus. Toutefois c'est quelque chose auquel on réfléchit dans le futur parce qu'on a pas mal de visiteurs justement qui ont ces soucis de mobilité pour venir sur notre site. Donc pourquoi pas dans le futur avoir une petite navette grotte de Chourange.
En attendant, ça laisse libre choix quand même, de manière pédestre ou en vélo, pourquoi pas, de se faire une petite virée circuit, visite pendant une demi-journée, par exemple en vélo, ça peut être complètement réalisable.
Tout à fait, oui. Tout à fait. En fait, ce qui est assez exceptionnel pour la grotte de Chourange, c'est d'être finalement dans un milieu naturel qui est tout à fait incroyable. On a les falaises de Presles qui nous entourent, on a une vue exceptionnelle depuis notre terrasse panoramique. Il y a également, donc je le disais, des sentiers de randonnée qui sont juste à côté de la grotte pour aller voir une très belle cascade de Tuf, mais également le lac souterrain de Gournier. Donc vous ne pouvez pas rentrer dans la grotte de Gournier parce qu'elle est accessible uniquement aux spéléologues, mais vous pouvez toutefois approcher le lac souterrain qui est exceptionnel. Donc il y a en fait une pluralité d'activités qui sont possibles et qui vous permettent de passer en effet une bonne partie de la journée avec nous.
Parce que ce n'est pas uniquement une grotte, Chourange, c'est un cirque, un site qui laisse entrevoir, vous l'avez précisé, effectivement d'autres grottes comme Gournier et puis effectivement aussi toute cette relation à la géologie, au vécu sur le site. Pourquoi pas la préhistoire même, il s'est passé des choses à Chourange.
Oui, tout à fait. Et bien en fait, d'ailleurs, le reste de l'année, donc pas pendant les vacances scolaires, mais disons du mois d'avril à peu près au mois de juin, nous faisons des animations auprès des jeunes pour justement les sensibiliser à la géologie et au paysage, mais également à la préhistoire, puisque alors aucun homme n'a vécu dans la grotte de Chourange. Ce n'est pas une grotte préhistorique, contrairement à la grotte de Thaïs qui est à Saint-Nazaire en Royan. En fait, les hommes ont vécu sous le porche de Couffin, donc juste devant l'entrée de la grotte que nous connaissons actuellement. Donc, certains objets ont été retrouvés, des ossements également. On sait en fait, avec des études assez précises, que c'était un endroit assez privilégié pour les hommes préhistoriques, puisque ils avaient le cours d'eau juste à côté, la protection due au porche qui en fait les recouvre totalement, et il y avait également de quoi chasser dans la vallée, donc ils avaient de quoi se nourrir, se protéger, mais aussi boire. Donc c'était un milieu assez favorable justement à leur existence.
Voilà déjà pour les premières grandes lignes de la grotte de Chourange qui fait partie bien, d'un groupe aussi, on peut le préciser, de sites touristiques hein, maintenant oui. qui forment une entité sur plusieurs sites.
Oui, tout à fait. Alors on a la chance de travailler en réseau avec de nombreux sites touristiques. Dans un premier temps, donc nous sommes sous la marque Visite Nature Vercors et donc nous travaillons avec le bateau à roues et la grotte de Thaïs, comme je le disais, à Saint-Nazaire en Royan, et également le jardin des fontaines pétrifiantes à la Saône. Mais en tant que grotte, nous faisons aussi partie d'autres réseaux, comme le réseau de la FFTS, donc avec la Fédération française du tourisme souterrain. Nous avons également la chance d'avoir reçu un label l'année dernière, site touristique emblématique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on en est très fiers, on fait partie d'un réseau de 21 sites et on se rencontre à peu près deux fois par an pour échanger sur des thématiques assez essentielles du tourisme de demain. Donc voilà, pour les premiers réseaux auxquels je pense.
Et aussi une distinction qui n'est pas forcément concerne la grotte directement, mais qui récemment a attribué un sésame pour le village de Chourange, n'est-ce pas ?
Oui, bien sûr. Oui. Nous avons eu le magnifique village de Chourange qui a été élu plus beau village de l'Isère très récemment. Donc c'est aussi une belle fierté pour nous et puis pour ses habitants, des habitants à qui on doit quand même la découverte de la grotte en 1871. Donc c'est quand même un joli clin d'œil, je trouve, pour l'histoire. Et oui, on est très fiers d'avoir ce village à côté.
Alors, quand on est public, on vient visiter la grotte, quelle tranche d'âge est concernée pour la visite ?
Alors pour le coup, c'est un site vraiment familial, donc vous pouvez venir de 7 à 77 ans, comme on dit. Mais il n'y a pas de contre-indication, on va dire, pour venir pour les plus jeunes. C'est juste, en effet, il faut prendre en considération le fait qu'il fasse 10 degrés dans la grotte, donc bien se couvrir et avoir des chaussures fermées, car c'est un univers un petit peu humide. Mais il n'y a pas de contre-indication pour venir. On a des enfants qui viennent et qui sont émerveillés par la beauté du site ou qui sont très intéressés par nos fameux protés. Et après, en effet, on a beaucoup de familles qui viennent, notamment l'été, pour découvrir ce site.
On peut même y revenir plusieurs fois dans sa vie, finalement, selon l'âge. Quand on est jeune, on découvre, après on aime revenir.
Bien, c'est assez rigolo parce qu'on a beaucoup de gens justement qui nous font ce retour, qui sont venus quand ils étaient plus jeunes ou qui sont venus avec leur école et qui maintenant viennent avec leurs parents ou qui ont connu la grotte lorsqu'ils étaient vraiment petits et qui reviennent aujourd'hui la découvrir maintenant qu'ils sont adultes. Donc on voit les choses différemment. La grotte, elle change évidemment puisque l'eau la façonne au fur et à mesure du temps. Mais ce n'est pas encore visible tout à fait à l'œil nu puisqu'on compte tout ça en centaines de milliers d'années, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est une grotte qui peut se visiter plusieurs fois et on a toujours plaisir à la redécouvrir. Moi-même, quand j'y retourne, j'ai toujours cet émerveillement devant les stalactites fistuleuses.
Alors, peut-on la visiter globalement toute l'année ? Comment ça s'opère pour...
C'est ça, on est une des seules grottes en France à être ouvertes à l'année, hormis des petites périodes de travaux qui peuvent survenir. Sinon, nous sommes vraiment ouverts toute l'année, 365 jours par an. On a toutes les infos qui sont bien expliquées sur notre site internet si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations. Mais c'est vraiment une volonté de notre part aussi d'avoir un site qui est moteur pour le département, pour la région et qui justement est accessible à la fois pour les locaux et à la fois aussi pour les touristes de passage tout au long de l'année.
Alors comment préparer sa visite au mieux quand on souhaite donc rentrer, se faire guider dans la cavité de Chourange.
Alors, le mieux, c'est de faire une réservation en ligne sur notre site internet parce qu'on est souvent victime de notre succès et donc il y a beaucoup de visites qui sont complètes. Donc, bien réserver en ligne, être en effet bien chaussé parce que ça reste quand même un chemin d'accès pour la grotte qui est un chemin d'un petit peu de petite randonnée. Donc, voilà, avoir de bonnes chaussures fermées. Également, on pourrait noter également la présence d'une veste puisqu'il fait 10 degrés dans la grotte toute l'année. Ça ne change pas, même en plein été sous la canicule, il fait bien 10 degrés. Donc ce sont un petit peu, je pense, les prérequis avant de venir à la grotte.
Le temps de visite de la grotte ?
Le temps de visite est d'environ une heure. Ça dépend un petit peu des questions, s'il y en a ou pas. Ça peut durer un petit peu plus longtemps, mais globalement, c'est environ une heure.
Après, des gens peuvent aussi spontanément se présenter, mais alors avec effectivement ce dont vous soulignez, c'est pas forcément évident selon les horaires d'avoir
oui,
des visites confortables.
C'est ça. En ce moment, on conseille beaucoup à nos visiteurs de venir sur les premières visites du matin ou les dernières de la journée, car c'est en général celles qui sont un petit peu moins plébiscitées. Mmh. Mais oui, c'est tout à fait possible. On a une billetterie sur place qui permet de vendre des tickets si les personnes n'ont pas accès à Internet ou ne souhaitent pas nécessairement réserver en ligne. C'est possible de venir nous voir sur place.
Sinon, sur Visite Nature, hein, on retrouve tous ces éléments, on peut réserver en ligne, découvrir aussi les autres sites.
Hein. Oui, bien sûr. Donc voilà, sur visitenaturevercors.com, vous avez la possibilité de prendre également donc, des billets packagés, donc avec des forfaits malins, où vous avez des réductions en couplant votre billet de la grotte de Choranche avec par exemple le jardin des fontaines pétrifiantes. Mmh. C'est possible et ça vous permet de faire plusieurs activités sur la même journée.
Entendu. Et côté tarif, combien faut-il compter pour la visite ?
Alors, en ce moment, donc, pour un adulte, il faut compter 14 euros. Mmh. Pour ce qui est des jeunes et des tarifs réduits, ce sera 12,50 euros. Et ensuite, pour les enfants, on est sur un tarif de 9,50 euros. Sachant qu'il y a la gratuité pour les enfants de moins de 4 ans.
Si on a peine parfois à se déplacer, c'est possible aussi de visiter dans une certaine mesure aussi.
Oui, alors c'est vrai qu'on conseille en général aux personnes qui ont du mal à se déplacer de nous appeler parce qu'on a quand même, je pense, des informations assez cruciales à donner. Mmh. Déjà, le chemin d'accès dont je parlais tout à l'heure est parfois un petit peu en pente, donc ça peut être un frein en effet à la mobilité. On a également des escaliers dans la grotte, toutefois ils sont facultatifs, on n'est pas obligé de passer par ces escaliers pour faire le chemin. Il y a bien entendu à prendre en compte cette fameuse salle de la cathédrale que nous avons dans la grotte, qui est accessible uniquement par un escalier d'une centaine de marches. Donc là, pour le coup, c'est en effet un lieu qui n'est malheureusement pas accessible aux personnes, notamment en fauteuil roulant. Mmh. Mais c'est une petite partie de la grotte. Je dirais qu'ensuite, ils peuvent visiter bien 90% de la cavité pour la visite guidée.
Le site aussi comporte un accueil bien achalandé pour ce qui concerne la petite restauration, bar. Comment tout cela est organisé? Donc c'est vraiment juste quand on arrive après le parking, on a donc l'accueil.
C'est ça. Donc on a le grand parking avec au bout donc notre bâtiment d'accueil avec la boutique, mais également un bar, une grande terrasse panoramique. Et nous avons également à disposition de nos visiteurs une petite restauration, donc un snack avec quelques repas froids proposés, mais aussi des sandwichs, des panini, des choses comme ça. Mais ça va vraiment être de la petite restauration plus de dépannage si nos visiteurs souhaitent vraiment se restaurer dans un bon restaurant avec des produits locaux. On peut leur conseiller de nombreux restaurants dans le coin, notamment au village de Choranche qui n'est pas très loin de notre site. Mais sur place, on va avoir en effet tout plein de boissons, des glaces. Donc ça fait plaisir aux enfants en général.
Vous êtes quand même une équipe assez conséquente, Grotte de Choranche, à œuvrer sur ce site.
Oui, en pleine saison, on est entre 20 et 25, je dirais, sur le site. On a besoin de beaucoup de guides, puisque nous avons plus de visites aussi qui ont lieu afin de satisfaire, on va dire, le plus de visiteurs. On a également un certain nombre de personnes à l'accueil, puisqu'on fait une plus grosse partie de notre fréquentation sur le mois de juillet et le mois d'août. Donc nécessairement, on a besoin de plus de forces vives. Et donc, on a beaucoup de jeunes, des étudiants qui font un petit job d'été et qui sont ravis de vous accueillir à la Grotte de Choranche.
Les ouvertures sont un peu plus larges, première et dernière visite?
Alors, on a les premiers départs en visite à 9h45 et les derniers à 18h15.
Et en ce qui concerne les intersaisons pour les vacances, par exemple, Toussaint, Pâques?
Pour les vacances, on a aussi plus de visites. Elles commencent en général aux alentours de 10h30 et se finissent un petit peu plus tôt, 16h30, 17h. Ça va dépendre de la période. Mais en effet, dès qu'on a les vacances, les ponts, les jours fériés, on a un peu plus de visites car on sait qu'on a plus de monde aussi sur le site.
Merci beaucoup Justine pour tous ces renseignements, informations.
Merci.
Je rappelle que vous êtes donc chargée de communication, référente du site. Nous allons faire un focus maintenant pour cette deuxième partie en compagnie d'Antoine pour cet aspect de cavité, de visite. Est-ce que Antoine, bien vous êtes guide maintenant depuis un certain nombre d'années, vous êtes saisonnier permanent ?
Je suis permanent. Oui. Je suis permanent depuis à peu près novembre de cette année. Donc je suis arrivé en février 2022. Voilà, ça fait un an et demi à peu près.
Vous étiez rompu aux cavités avant la grotte?
Pas du tout.
Spécialement.
Pas du tout. On va dire que j'ai commencé un peu sous terre. Le premier poste de guide que j'ai fait, c'était dans un musée de la mine,
oui.
En Auvergne. Et j'ai trouvé ensuite ici, là pour le coup, donc quelque chose de plus naturel, une grotte pour le coup.
Et l'aspect aussi de faire découvrir le monde souterrain de la mine, aussi la grotte de Churange, c'est un côté aussi assez valorisant, notamment cette grotte qui est assez prestigieuse.
Ah oui, bien sûr, j'ai attaqué le musée dans lequel j'étais, était municipal, c'était un musée sans prétention, on va dire, très, très simple, qui était ouvert que vraiment pour la saison. Et je suis arrivé ici dans un site qui est déjà ouvert à l'année et qui a beaucoup plus d'aura, on va dire, touristique, quoi. Donc ça m'a pas mal changé, mais bon, on s'y fait vite.
Alors, une belle cavité à faire visiter. Est-ce qu'on peut parler de spéléologie quand on rentre dans la grotte de Churange?
Ça dépend.
Dans une certaine manière.
Oui, voilà. Alors, si vous dites ça à un spéléologue, il rigolera, je pense. Mais après, je pense que c'est une porte d'entrée. Tout simplement, ça peut permettre, ça nous arrive hein, souvent en visite d'avoir des questions par rapport à ça, justement pour aller un peu plus loin, puisque ça reste une grotte aménagée, hein, on n'a pas besoin de mettre de tenue ou quoi que ce soit, on y va, on a des gens qui vont en t-shirt, hein, là où c'est plus compliqué en spéléo d'y aller juste en t-shirt. Non, c'est plutôt, c'est vraiment ça, c'est une porte d'entrée et ça permet aux gens de découvrir et ensuite potentiellement d'aller un peu plus loin s'ils le veulent, quoi.
Oui, ça donne une première idée du monde souterrain, d'ailleurs, que vous expliquez au fur et à mesure de la visite, hein, la manière dont cela se comporte. C'est un monde à part, finalement, le monde souterrain. Tout est déconnecté un peu de la réalité, de ce qu'on a à l'extérieur.
Ah bah oui, bien sûr, c'est un monde qui est vraiment, entre parenthèses, la température ne change pas, il n'y a pas de lumière du soleil. C'est un peu ce qu'il faut se dire aussi, c'est que nous, quand il fait très chaud, on est au frais, et quand il fait très froid, on est au chaud. donc c'est ce qui permet un peu d'avoir
certaines stabilités, ouais,
voilà,
dans le temps.
Et puis ce décalage par rapport au monde de dehors, quoi. Ne serait-ce que pour la température, déjà, il y a un énorme décalage, surtout cet été.
Alors, comment présenter ce type de grotte qui est Churange? Alors, des fois, on parle de grotte active, de grotte fossile. Comment on se situe à ce niveau-là?
Alors, pour le coup, la grotte de Churange, c'est une grotte active. Grotte de Churange, on pourrait même aller un tout petit peu plus loin, c'est la grotte de Couffin-Chevaline, parce qu'on a deux rivières souterraines qui pour le coup sont actives, donc la rivière de Couffin et la rivière de Chevaline qui se rejoignent dans le lac d'entrée de la grotte de Churange. Donc on dit grotte active parce qu'on a de l'eau, tout simplement. Donc on a encore de l'eau qui est en train de couler dedans, ce qui n'est pas le cas forcément de toutes les grottes. Après, bien évidemment, toutes les grottes ont été actives à un moment de leur vie, mais là, on a la chance d'en avoir une qui est active pendant que nous, on est vivants. Voilà.
Ça demande aussi certaines précautions quand même, quand avec les précipitations, il y a un phénomène comme ça de
crue. Oui.
De crue.
Ouais, tout à fait.
Et on constate effectivement, par exemple, la nuit dernière, il a plu sur le massif. On va le ressentir dans la grotte, on le ressent à quel moment?
J'ai pas eu le temps d'aller voir encore aujourd'hui, mais je pense pas forcément. En tout cas, ça sera pas quelque chose d'assez frappant pour les visiteurs. Nous, les guides, des fois, on arrive à voir un peu la différence parce que on y est tous les jours, donc on s'en rend un peu plus compte. Mais il faut vraiment que ça tombe beaucoup pour qu'on le voit très vite. Et j'ai pas du tout regardé les précipitations qu'il a fait, mais nous on a à peu près un relevé des crues, on sait à peu près à partir de combien de millimètres ça commence à vraiment se ressentir dans la grotte. Ouais. Et même par rapport au bruit que j'entends au niveau de la cascade de Gournay ou quoi que ce soit, je pense pas que ça soit plus que ça. Ouais.
Alors, puisqu'on parle d'eau, de réseau, ça laisse entrevoir aussi, outre l'aspect un peu émergé, j'allais dire de l'iceberg, c'est pas tout à fait ça, mais enfin, c'est une image pour dire que la grotte, on aperçoit les premières cavités, mais ensuite, il y a un réseau qui va loin.
Bien sûr. Le réseau souterrain du réseau Couffin-Chevaline, cumulé, il fait 33 kilomètres. La partie touristique, donc la partie aménagée, on fait 150 mètres dans chaque galerie aller-retour. D'accord. Donc c'est plus ou moins 600 mètres qu'on fait en visite. Donc c'est une toute petite partie de l'iceberg pour le coup. C'est plus les spéléos qui vont aller plus loin que cette partie-là. Donc quand je dis une porte d'entrée, c'est au sens propre, mais aussi au sens figuré. Du coup.
Qu'est-ce qui pourrait caractériser en premier lieu cette grotte ? Il y a quand même plusieurs aspects qui sont assez célèbres. Comment on pourrait les déterminer ?
Je pense qu'on peut, même si je travaille là et que peut-être je suis pas très objectif, je pense qu'on peut dire que esthétiquement parlant, c'est très beau. C'est une grotte qui est vraiment à part elle a quelque chose d'unique avec les fistuleuses, donc ces stalactites qui sont très fines. Et puis on a aussi entre les stalactites fistuleuses et l'eau, les rivières souterraines, c'est ce qui fait un peu le mélange qui rend la grotte de Chorange un peu unique en son genre. Après, toutes les grottes sont uniques, il y en a beaucoup de différentes, mais voilà, la grotte de Chorange est quand même pas trop mal.
Et puis bien sûr, on se sent pas trop en proie à la claustrophobie, Chorange, cet aspect aussi de quand même de pouvoir laisser respirer le public.
Ouais, tout à fait. On a forcément des gens qui sont un peu pas à l'aise, on va dire. Mais finalement, tout le long de la visite, on est debout. Il n'y a pas de problème. Et puis, on peut voir le plafond facilement. Il y a juste l'entrée où c'est un tunnel, pour le coup, qui n'est pas forcément très haut.
Oui.
Et ça, pour certaines personnes, vu que c'est le tunnel d'entrée, ça les...
Ça rebute un petit peu au début.
Ouais, voilà, mais... c'est ça. Mais bon, après.
Après,
le guide est là pour les rassurer aussi. C'est ce qu'il faut dire. Donc.
Par exemple, la première salle, là, ça laisse entrevoir, ça donne une belle image. Hein, c'était la grotte.
Exactement. C'est comme ça qu'on arrive un peu à calmer les claustrophobes. Le tunnel, finalement, c'est que quelques mètres. Et après, on arrive dans cette grande salle qui leur permet déjà de respirer un peu plus et d'avoir un plafond au-dessus de leur tête, mais très haut. Donc, ça les rassure.
Ouais. Finalement, c'est un beau scénario, la grotte. On entre par un petit tunnel assez y a un côté mystérieux. Et puis après, la grotte se dévoile comme dans un film d'aventure, finalement.
Tout à fait. C'est un peu tout ça le long de la visite. Hein. On essaye d'avoir des tableaux où on va s'arrêter à chaque fois. Donc, comme des photos un peu de cartes postales. D'ailleurs, les photos qu'on a en cartes postales dans la boutique sont souvent celles qu'on voit en visite, tout simplement. Mais les gens peuvent les faire mentalement, on va dire.
Et la chance aussi, c'est certes les volumes, mais aussi les concrétions qui y résident, qui font la célébrité. Unique en Europe, avant, on avait tendance à dire de cette grotte de Chorange, tellement il y a des caractéristiques très spécifiques dans les concrétions.
On a, en fait, on est reconnu pour les stalactites fistuleuses, donc ces stalactites très fines, mais aussi très fragiles. Mais on n'a pas que ça, justement. C'est aussi ça qui fait un peu la variété de la grotte. On a des gours, donc c'est ces bassins qui se sont formés au fur et à mesure que l'eau a coulé, a déposé de la calcite. On a des colonnes, on a des stalagmites, on a aussi, alors ça, faut avoir un peu l'œil, des petits excentriques, des choses comme ça. Donc c'est la variété de concrétion qui fait qu'on a pas mal de choses. On a aussi les tam-tams qui sont des gros stalagmites avec le sommet aplani, dû au fait que les gouttes d'eau arrivent de très très haut.
Et ça s'appelle des tam-tams.
C'est ça, tout à fait. C'est pas de moi.
C'est représentatif.
Ça vient du CNRS, donc ils les ont appelés comme ça.
Bon.
En gros, c'est tout simplement des stalagmites au sommet aplani, dû à la force de la goutte d'eau qui, à force de tomber toujours au même endroit, petit à petit aplanit le sommet. Quoi.
Ah oui.
Voilà.
Avec les éclaboussures qui fait une grande surface
tout à fait,
de concrétion.
Ouais. C'est vraiment ça.
Donc c'est un condensé finalement de différentes concrétions. On retrouve dans 2-3 salles. C'est...
Exactement. En fait, la grotte en visite, on peut regarder un peu partout. On trouvera toujours des choses à voir, toujours des choses un peu particulières, assez jolies quand même. Donc c'est un peu aussi, je pense, ce qui fait le succès de la visite. Nous, on va guider, on va donner des explications, mais finalement, on n'est pas la star, loin de là. C'est la grotte, la star. Il n'y a pas grand chose à faire de plus pour que les gens juste soient contents d'être rentrés dans la grotte et d'avoir pu regarder tout ça, quoi.
Oui, d'ailleurs, vous, en tant que guide, vous avez eu une expérience auparavant de faire visiter des sites, là, avec un site aussi prestigieux. Il y a un côté, je veux dire, entre guillemets, facile, mais quand les gens sont émerveillés, après, il suffit de porter un petit peu cet émerveillement jusqu'en bout de visite.
Tout à fait. Nous, c'est ce qu'on nous dit souvent en fin de visite. Vous avez un joli bureau.
Ouais.
En effet, il y a pire. Il y a largement pire. Nous, on est toujours dans le site. C'est aussi pour ça qu'on a un certain attachement et qu'on fait des visites guidées pour aussi le préserver. Mmh. Parce que forcément, on a beaucoup de monde, donc il faut aussi faire un peu attention. Donc que ce soit juste tout simplement des tickets qui tombent par terre, des choses comme ça. Mmh. Nous, on va donner des explications, mais aussi faire attention que tout le monde respecte bien les règles et que le site soit toujours dans le même état, quoi. Mmh.
Après, chaque guide a un peu ses explications ou enfin, vous avez une trame commune et après
On a des choses qu'on va tous dire, donc des faits qui sont avérés et que de toute façon on ne pourra pas changer avant un petit moment, avant que ça change. Mais après, forcément, certains guides, même chaque guide a un peu sa trame, son fil rouge, on va dire, qui peut changer sa façon d'aborder les choses. Mais on dit tous la même chose. C'est pour ça que normalement, quand vous venez faire une visite à la grotte de Change, tout le monde aura à peu près les mêmes connaissances. Après, forcément, en posant des questions, on peut aller plus ou moins loin. Mais le discours de base, on va dire, restera toujours à peu près le même, quoi.
Avec des explications un peu techniques, parfois ça aborde la chimie puisqu'on parle de calcaire, de calcification. Donc ça fait partie aussi, vous essayez de mettre ces termes, ces dimensions techniques à la portée du public.
Alors ouais, c'est ça, mais justement il ne faut pas en faire...
Non plus trop,
ouais,
mais...
tout à fait, bah, surtout que moi en plus je suis très mauvais en chimie, donc c'est pour ça, même pour moi j'essaye de simplifier un peu. Mais oui, bien sûr, on est obligé d'expliquer... tout simplement la formation avec le CO2, comment ça se forme, le calcaire qui devient un peu plus de la calcite. C'est aussi notre boulot, c'est de faire en sorte que tout le monde comprenne et encore plus que nous aussi on comprenne pour pouvoir le faire comprendre.
Alors, petite question technique, Antoine. Pourquoi les concrétions de Chourange sont aussi blanches par rapport à d'autres cavités? Parfois elles sont un peu rouges, brunes. Chourange, c'est quand même un blanc éclatant.
Alors on a pas que du blanc.
Il y a aussi d'autres couleurs.
Ouais, dans la grotte, on peut tourner un peu plus vers le jaune, jaune marron. En gros, tout simplement, les concrétions très blanches sont dues à des dépôts actifs où on a toujours un tout petit peu d'eau qui va redéposer de la calcite entre guillemets nouvelle. Et cette calcite là, elle est presque pure. Il n'y a rien d'autre qui va se mettre dans l'eau pour gêner un peu cette couleur blanche, justement. Mais au contraire, on peut aussi des fois avoir pas forcément que de la calcite qui se dépose. L'eau, elle peut ramener un peu de matière organique sur son chemin. Donc ça peut être un petit peu de terre, des choses comme ça, des choses minimes forcément qui sont ramenées dans l'eau. Et ce qui fait que ce blanc va un peu être altéré et va virer un peu plus au jaune, des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a ces différentes couleurs.
C'est un écho finalement du massif qui entoure la grotte, les couleurs et certains paramètres comme ça.
Tout à fait. Nous on a la chance d'avoir au-dessus de nous finalement un massif qui est pas du tout pollué. Donc ce qui fait qu'on a quelque chose la grotte n'a pas plus changé que ça. En gros, nous les seuls vraiment impacts de l'homme qu'on a sur la grotte, c'est les charbonnières. Qui ont fait des traînées un peu plus noires dans la grotte. Et donc ça, d'ailleurs, ça a permis de dater certaines choses.
Oui, c'est ça. Vous avez fait même des... Pourquoi pas des carottages ou des choses comme ça?
Il y a des carottages qui ont été faits. Ça, ils ont été faits bien avant moi. Donc c'était déjà fait avant que j'arrive. Ouais. Mais oui, il y a des carottages qui ont été faits et qui ont permis un peu de... alors, les carottages ont été faits sur plus longtemps, pas forcément par rapport aux charbonnières. Ça nous a permis notamment de savoir de dater un peu les colonnes qu'il y a dans la grotte, avec les pollens qui ont été retrouvés dedans, qui ont été pris au piège, etc.
Donc c'est un livre d'histoire aussi finalement.
Oui, tout à fait. Une grotte, en fait, c'est un peu un figé, on va dire, de pas mal de choses qui se sont passées. Et après, quand on s'y intéresse beaucoup et qu'on est scientifique, on arrive à en déduire pas mal de résultats.
Il y a une curiosité aussi dans la grotte que vous aimez expliquer au public et qui finalement aussi perdure au fil des années. C'est le batracien, c'est ça?
Amphibien.
Donc c'est quelque chose aussi qui donne un accès... du monde souterrain, ce type. Et finalement, on parlait aussi de stabilité dans le temps. C'est un peu l'image de ça.
Tout à fait. Le protée, c'est un animal amphibien qui peut vivre très longtemps, qui a beaucoup d'avantages, même s'il a quand même quelques inconvénients. Il a la capacité de se régénérer, il vieillit pas très vite, il bouge pas beaucoup non plus, faut dire ce qui est. C'est un animal qui intéresse beaucoup, que ce soit nous les visiteurs, mais aussi bah, forcément un peu plus les scientifiques, parce que nous, ceux qu'on a là, hein, pour le coup, ils sont au CNRS, tout simplement. Donc on les a pas là juste pour faire joli, ils sont étudiés, hein, tout simplement.
Ouais. Ouais. Donc ça, oui, c'est suivi par le CNRS de Grenoble
C'est pas le CNRS de Grenoble, c'est celui de Moulis.
Ah, ouais, c'est ça. En fait, ils viennent de Moulis, en fait.
Exactement.
C'est ça. Ah, donc c'est eux même qui ont continué à.
Tout à fait.
À observer ça.
En gros, ils ont réussi à en ramener de Slovénie dans le courant des années 50, pour que je me trompe pas, et ils ont réussi à en faire reproduire pas mal, et ils nous en ont prêté ici quelques-uns à Chorange. Et à Moulis, en fait, là-bas, c'est un laboratoire souterrain, donc ils s'intéressent beaucoup à tout ce qui est lié aux grottes, quoi.
Après, un défi, c'est peut-être une reproduction ici. Ça, c'est toujours quelques années à souhait, mais c'est pas évident.
Je pense pas, honnêtement. Nous, justement, c'est une population de conservation. Vraiment, pour le CNRS, on n'a pas vocation à en faire un élevage ou quoi que ce soit.
Oui, mais ça pourrait se produire.
Potentiellement. Mais en tout cas, on ne fait pas pour que ça se reproduise. C'est-à-dire...
Oui, c'est pas la...
Ouais, voilà, c'est ça. Les protées font leur vie. Nous, on ne va pas... on va dire interférer là-dessus. Donc le jour où on en aura un, ça sera très bien. Mais ils sont bien comme ça aussi.
Eh bien, merci beaucoup Antoine. On va vous laisser quand même œuvrer puisqu'on est en pleine saison et que ça nécessite un certain nombre de visites et de mises à disposition auprès du public. Bon guidage et puis à très bientôt à la grotte de Chorange, votre compagnie.
Ben, merci beaucoup.
Merci.
C'est sympa d'avoir fait cette interview.
À très bientôt. Merci beaucoup.
Poursuivons ce magazine touristique avec son agenda pour aujourd'hui. En ce jeudi, eh bien, découvrons ce qui nous attend dans différents contextes de nature et également de musées et d'animation. Je rappelle que cet agenda touristique a été réalisé grâce à nos partenaires, le musée de l'eau de Pont-en-Royan, le Grand Séchoir Maison du Pays de la Noix à Vinay, la Maison Musée de Rochechinard, le Mémorial de la Résistance à Bassieux-en-Vercors, le musée de la préhistoire du Vercors et le musée de la résistance à Bassieux, le jardin des fontaines pétrifiantes à la Saône, la grotte de Thaïs, le bateau à roues à Saint-Nazaire-en-Royans, la grotte de Chorange, dans laquelle nous nous situons, enfin en tout cas à son abord, qui forme donc ce groupe Visite Nature Vercors avec les trois autres sites de Saint-Nazaire-en-Royans et de la Saône. Parlons des festivals, le festival Texte en l'air à Saint-Antoine-l'Abbaye qui bat son plein, tout comme celui des chapelles en Royans-Vercors, l'office de tourisme Vercors-Drôme et ses trois antennes, ainsi que le site Indians Valley à Borgard-Barré. Quelques sorties avant d'aborder notre première chronique touristique qui nous emmènera au jardin des fontaines pétrifiantes à la Saône. Toujours cette balade très rafraîchissante et merveilleuse aussi de par toutes les plantes et fleurs qui y résident avec Magali, chef jardinière. Auparavant, vous précisez quelques sorties qui concernent la journée de demain vendredi à Vassieux-en-Vercors, notamment autour des objets d'époque qui sont installés dans le musée départemental de la résistance du Vercors, qui a sa spécificité d'obtenir beaucoup d'objets, d'avoir à disposition de nombreux éléments de la Seconde Guerre mondiale pour le public, petit ou grand, et qui donne certains marqueurs de cette guerre et surtout de la résistance qui a été l'objet, notamment à Bassieux, de grandes époques assez sensibles. Et à partir de ces objets d'époque, découverte ludique de l'histoire et évocation du parcours de la résistance. C'est à 15h30 demain vendredi pour les enfants de 8 à 15 ans à partir de 3,50 €. On va rester un instant à Vassieux-en-Vercors pour également vendredi l'atelier de la préhistoire, faire naître le feu au musée de la préhistoire. Et c'est, j'allais dire, on va se frotter un peu à la manière dont s'y prenaient les hommes préhistoriques pour allumer le feu. Il n'y avait pas d'allumettes, pas de briquet. Ouais. Alors comment faisait-il ? Eh bien, durant cet atelier, vous apprendrez à allumer par friction à la manière des préhistoriques et commencer à faire de la fumée et des étincelles. Vous serez émerveillés vous-même de vos résultats de 14h à 15h30 à partir de 7 ans. Attention, c'est sur inscription. Les places sont limitées et présence obligatoire d'un adulte pour les enfants de moins de 8 ans. Le musée de la préhistoire est joignable au 04 75 48 27 81. Le musée de la Préhistoire qui propose aussi des moments de chasse. Vous serez un petit peu chasseur, on vous donnera quelques éléments pour vous mettre dans la peau d'un préhistorique et découvrir un peu les armes de l'époque comme la sagaie. C'est de 10h30 à 12h tous les vendredis. Et enfin, pour terminer, toujours avec cet aspect préhistorique, vous pourrez aussi confectionner votre parure, coquillage, fossile, os, perle, pierre dans ou ivoire. Voilà tous les petits éléments qui faisaient que eh bien, les hommes préhistoriques aimaient bien être aussi élégants. Le vendredi, c'est un moment aussi de cheval qui s'organise avec ce cabaret équestre Pause Café à Bourg-Arbaret avec notre site partenaire Indians Valley. Un spectacle qui vous transportera, et il en est de même tous les vendredis hein, durant cet été, dans l'ambiance des fêtes de village d'antan, avec musiciens, acrobates, voltigeurs et cavaliers qui vous feront revivre la féerie de cette belle époque où tous les week-ends eh bien, se donneront comme ça ces cavaliers avec les groupes qui jouent en live. Voilà, au cabaret d'Indians Valley dès 19h30, adultes 16 euros et les enfants moins de 14 ans 11 euros. La billetterie est en ligne, également sur site. Il est préférable de réserver. Un mot d'exposition avec dans le sud Grésivaudan, toujours au couvent des Carmes, Tinekebot et ses sculptures en bronze qui donne une belle harmonie à l'exposition permanente de Bob Tenop, peintre hollandais qui a résidé longtemps à Pontarroyan. Voilà des propositions qui se juxtaposent et qui permettent de découvrir aussi des artistes locaux d'envergure internationale. Le couvent des Carmes, c'est aussi son exposition patrimoniale qui a fait le musée Delphinal avant le couvent des Carmes, à savoir eh bien, toutes les traces et les repères de la vie en Dauphiné au temps des dauphins. Visite gratuite dans le couvent pour ce couvent fondé au XIVe siècle que vous pourrez découvrir avec les seigneurs du Dauphiné ainsi que la collection de César Filol, créateur du musée Delphinal en ces lieux à Beauvoir-en-Royans. Actuellement ouvert tous les jours pour cette saison d'été. Exposition aussi du côté du lieu d'art avec Marie Minato qui présente l'expo estivale du lieu d'art. C'est Résurgence, une artiste qui transforme et transpose. Ses œuvres sont animées par la volonté de ne pas figer, de donner à voir un mouvement et une forme en devenir. C'est assez surprenant de voir cette pratique qui se place à cheval entre plusieurs temporalités. Et côté sortie aussi, à l'Artaudière, c'est possible de découvrir ce château. C'est à Saint-Bonnet-de-Chavagne, 15h30 du mercredi au vendredi. Vous pouvez donc jusqu'à 19h obtenir des informations sur l'origine de ce château qui a été après, avec plusieurs périodes, des transformations qui se sont opérées en ces lieux. Et des expositions à découvrir aussi au château actuellement, celle de Nadine Roux, Claire Siré et Béatrice Branger. Et partons maintenant pour notre première chronique touristique, mais en tout cas c'est la quatrième de ce magazine cette semaine, avec le jardin des fontaines pétrifiantes et Magali qui nous attend pour la suite de cette visite dans ce merveilleux jardin. Nous invitons à découvrir si ce n'est pas fait ou y retourner éventuellement, on ne s'en lasse pas. Chronique touristique au jardin des fontaines pétrifiantes à la Saône. Une visite guidée par Magali, chef jardinière du site.
Des objets un peu à chaque étape de la pétrification pour que les gens voient.
Ah oui, les étagères donnent les différentes étapes de progression, non ?
Tout est mélangé.
Là, par exemple, il y a un éléphant qui est en terre cuite et juste au-dessus, c'est le même éléphant, mais qui est, ça fait peut-être un mois et demi, deux mois qu'il est pétrifié.
Ah oui, on voit effectivement les étapes.
Le cul est facile déjà. Déjà, le cul est facile. Effectivement, dans les châtaigneraies, la terre est beaucoup plus acide qu'ailleurs.
Okay, okay.
Et du coup, cet humus va apporter encore de l'acidité à l'eau de pluie.
D'accord.
Et cette eau acide qui va entrer dans la roche mère,
ouais,
calcaire, va énormément dissoudre.
Okay.
Donc c'est pour ça qu'on va avoir un taux de calcaire important dans notre eau de source.
Oui.
380 mg par litre de calcaire, c'est énorme.
Ouais.
Et c'est dû justement, oui, à l'acidité de l'eau.
Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment une combinaison, en fait.
Oui, il y a plein d'effets différents qui font que cette eau est très chargée en calcaire. Et puis l'effet de chute d'eau dans le jardin qui permet d'avoir un gros dépôt.
Okay. Autour de ces sources-là, je trouve qu'il y a toujours, il y a toujours vachement de mousse sur les arbres qui donne un petit côté un peu particulier. Là. C'est dû pareil aux conditions... La mousse, elle est due à l'humidité
ou Oui, il y a vraiment un taux d'humidité important dans le jardin, je ne le connais pas. Mais effectivement, il y a en permanence des gouttelettes d'eau dans l'air qui font qu'il y a une humidité importante.
Okay.
Donc on a des mousses un peu partout, des fougères, toute une vie qui s'installe par rapport à cette humidité.
Okay.
Donc les plantes vont pouvoir pousser dans le tuf, dans de la roche.
Oui.
Mais l'humidité de l'air va faire qu'elles vont être bien quand même et pouvoir s'installer. Là, on a une vue au-dessus des bassins à débordement qui sont sous la cascade, alimentés par l'eau de la cascade. Et du coup, on voit les différentes couleurs de calcaire, les mousses qui poussent. Et ça fait vraiment un effet de bassin. Des fois, même le fond est bleu parce qu'il y a des petites bactéries au fond. Donc, on a des couleurs tropicales avec l'Isère en fond d'image. Elle n'est pas bleue encore, mais elle va devenir bleu lagon.
Okay.
L'Isère.
Ouais. Voilà, côté très panoramique hein, ici. Là, on rentre dans une forêt de type Extrême-Orient, ou je ne sais pas, bambouseraie.
Notre petite bambouseraie, oui. Alors, on voit les bambous au fond qui sont très serrés, dans lesquels on ne pourrait pas cheminer. Parce que les cannes sont vraiment très nombreuses. Et puis, par contre, il y a un petit passage là où les cannes sont moins nombreuses et on va pouvoir cheminer au milieu des bambous. Et nous avons placé des parfums. Je vais vous laisser deviner.
C'est la petite surprise de fin de parcours, enfin, de fond de jardin. Deviner les parfums à l'extrémité des bambous. Réponse sous l'écorce. Ah, et puis effectivement... On voit des bambous qui nous réservent quelques surprises, peut-être. Je ne sais pas, on soulève l'écorce.
Voilà,
Florian qui va faire l'expérience.
D'abord, on
sent. Oui.
On essaie de deviner l'odeur. Nous avons placé des huiles essentielles de parfum qui sont plus ou moins connues ou facilement reconnaissables.
Est-ce que ça évoque quelque chose, Florian?
Oui, mais alors par contre, je ne suis pas très fort à ça. C'est de la cannelle ou un truc comme ça, c'est possible?
Non, ce serait plutôt chez le dentiste.
Ah oui, d'accord, je vois.
Clou de girofle, c'est ça.
À suivre cette chronique touristique au jardin des fontaines pétrifiantes à la Saône, en compagnie de Magali, chef jardinière du site. Suite et fin de cette chronique au Jardin des Fontaines Pétrifiantes demain vendredi. Pour l'heure, eh bien, nous allons reprendre le calendrier de nos animations et puis quelques sorties. À vous signifier également, maintenant on parle de trottinette au Col du Rousset exactement. Pour en famille ou entre amis, vous essayez à ce type de descente en montée en télésiège et redescente par plusieurs pistes très ludiques. C'est avec les stations de la Drôme. Et puis sachez également... Nous nous situons à Chouranche aujourd'hui pour la réalisation de ce magazine. C'était également des initiations spéléo non loin de Chouranche, la grotte Roche, en remontant encore un petit peu plus la gorge de la Bourne. Est très pratique, à quelques minutes du parking, et bien vous pourrez vous immerger dans une grotte avec de nombreuses concrétions assez surprenantes. Mais il est préférable de se faire guider. Et Vercors Vertical propose cela en matinée. notamment les vendredis de cet été, de 9h à 12h pour le tarif de 45 €. Une information repérable sur la Gazette de l'Office Vercors-Drôme. Des animations à découvrir avec aussi le Festival des Chapelles en Vercors, tout comme celui de Texte en l'air qui bat son plein. C'est un moment de musique classique qui s'organise avec les Chapelles en Vercors durant ce mois de juillet. Et c'est un petit peu la dernière ligne droite avec pour cette journée de jeudi, cette soirée, précisément un concert dans l'église de Jaillan à 20h30 avec le duo DDT, Marc Drouard à la guitare et François Tuillier au tuba, répertoire jazz en perspective. Et puis enfin, la dernière soirée dans la belle abbaye de Léoncelle à 16h, par contre c'est en après-midi dimanche. Fabrice Ferrez, hautbois et cor anglais, puis aussi c'est le directeur artistique du festival Texte en l'air, aux côtés de Marc Pantillon au piano. Et justement, abordons cette soirée en compagnie de Fabrice Ferrez pour un répertoire autour des musiques dégénérées.
À l'abbaye de Léoncelle, c'est de tradition, c'est à 16h. Et donc, on sera avec mon ami pianiste Marc Pantillon pour un projet qu'on poursuit depuis longtemps et qui se continue de disque en disque autour de ce que les nazis ont appelé les musiques dégénérées. Alors, en fait, en 1938, les nazis ont organisé à Düsseldorf une grande exposition qui était... Il fallait quand même le faire, hein, fallait quand même oser le faire. Une exposition de tout ce qu'il fallait pas entendre ou tout ce qu'il fallait pas voir. Voilà. Donc ils ont fait une grande exposition. Et dans cette exposition, il y avait évidemment les peintres expressionnistes, mais en musique, eh bien, il y avait l'affiche d'ailleurs, c'était un jazzman américain, hein, c'était un noir américain en train de jouer du saxophone. Ça, c'était vraiment le comble de l'ignominie. Mais il y avait également Schoenberg, qu'on a entendu tout à l'heure, et il y avait Shulov, dont je vous ai dit un mot et qu'on jouera lors de ce concert. Shulov, c'est un compositeur qui était un pianiste extraordinaire, classique, qui a été formé par Dvorak, c'est vous dire, c'est quand même pas rien. Et ensuite, il a été interdit de travailler en tant que juif, et donc sa seule source de revenus, c'était d'aller dans les caves de jazz à Berlin pour jouer du jazz, mais il n'était pas jazzman au départ, simplement il était tellement doué qu'il a appris ça sans aucun problème. Il était, en plus d'être juif, il était homosexuel et communiste, donc vous voyez, lui, il avait tout. Et il avait participé, dans les années 30, il écrivait une musique qui était une musique proche du jazz parfois, qui était une musique symphonique, réfléchie, moderne, mais qui n'était pas très avant-gardiste. Par contre, dans les années 10, après la Première Guerre mondiale, parce que la modernité, ça vient aussi du choc de la Première Guerre mondiale, les gens qui sont rentrés de là, ils se sont dit, mais où est-ce qu'on va, quoi? Donc, à la place d'écrire des œuvres normales, ils ont écrit des fois des choses qui nous paraissent un peu choquantes ou bizarres, mais il faut imaginer dans quel état était leur mémoire, leur cerveau, leur affect de retour de cette guerre. Et donc, à ce moment-là, Shulov, il a écrit des pièces dada. Vous vous souvenez de la pièce d'Apergis qu'on a entendue, qui a été écrite en 78? Shulov, il a écrit des choses comme ça, mais dans la fin des années 1910. Il a aussi mis en musique un petit bout du manifeste du Parti communiste, qui est quand même une chose relativement originale. Il a écrit la première pièce constituée uniquement de silence, bien, bien longtemps avant que John Cage le fasse dans la deuxième partie du XXe siècle. Donc, c'était un type complètement hors norme. Et on va jouer avec Marc une de ses sonates. On a déjà joué un bout de cette sonate à Roman en avril, et là on va en jouer encore un autre bout, puis de la musique de In the Minute, et aussi des compositeurs qui ont été interdits par les nazis et qui peuvent paraître tout à fait anodins pour nous aujourd'hui, puisqu'on va jouer du Mendelssohn, qui était le grand génie, un des grands génies romantiques. Mais simplement, Mendelssohn, vous voyez, c'est un nom juif, il était juif, son grand-père, grand philosophe des Lumières d'ailleurs. Et donc, musique interdite et interdite à jouer pendant cette période-là. Donc, on vous proposera un programme, et vous savez, puisque beaucoup connaissent, qu'avec Marc au piano, avec Marc Mantillo au piano, c'est toujours des grands moments de poésie, et dans l'acoustique de Léoncelle, on est vraiment toujours gâtés pour terminer le festival.
Merci à Fabrice Ferrez pour les explications de cette soirée des Chapelles en Vercors, donc à Léoncelle, ce dimanche 30 juillet à 16h dans l'abbaye. Tarif des concerts 13 €, je vous le rappelle, et puis des tarifs réduits pour les étudiants chômeurs ou handicapés, 8 € et gratuit pour les moins de 12 ans. Et bien sûr, le festival Texte en l'air 2023 qui a débuté depuis ce mercredi et qui propose nombre de pièces de théâtre, de concerts, de lectures, de pérégrinations. C'est tout un monde autour du texte qui maintenant perdure depuis plus de 19 ans au cœur du village médiéval de Saint-Antoine-l'Abbaye. Focus sur le festival Texte en l'air avec cette pastille agenda. Nous retrouvons au micro d'Anouchka Valérie Charpinet, directrice artistique du festival.
Et le festival Texte en l'air fait également la part belle à la programmation musicale avec plusieurs concerts proposés cette année.
Oui, absolument. Un concert tous les soirs à 19h30. Et sauf le dimanche où il est décalé à 21h30 puisque c'est le concert final du festival. Et donc ce sont des rendez-vous gratuits qui ont lieu dans la grande cour. Et le premier groupe que nous accueillons s'appelle La Meute. C'est un groupe qui réunit quatre jeunes femmes qui font ce qu'on appelle du spoken word. Alors en français, ce serait des textes qui sont scandés, qui sont dits et qui sont accompagnés musicalement. C'est des textes souvent très engagés aussi du côté du féminisme aujourd'hui. Et c'est vraiment un groupe avec une énergie très belle à voir sur scène.
La Meute, donc à 19h30 le mercredi 26 juillet, un groupe qui était également d'ailleurs en résidence à la Navette à Saint-Laurent-en-Royans.
Voilà.
Le deuxième concert aura lieu donc le jeudi 27 juillet, toujours à 19h30.
Oui, c'est un duo qui s'appelle Belfour, qui a de très beaux textes de poésie qui sont mélangés avec une musique plus rock'n'roll. Texte en l'air s'appelle Texte en l'air, donc même dans les concerts, je vais aller chercher des groupes qui soignent l'écriture et l'écriture en français. Donc c'est une très belle voix, Lucie Mena, qui est accompagnée par Michael Zacchetti à la guitare.
Et puis un troisième concert proposé donc le vendredi 28 juillet, toujours à la même heure dans la grande cour, et c'est toujours gratuit.
Oui, ce concert-là, c'est un homme seul, mais seul avec ses machines. Il s'appelle Bat, alias Baptiste Giuliano, et il compose et écrit ses chansons en s'accompagnant de l'accordéon et de machines qui amènent la musique vers un petit peu plus d'électro, et toujours avec des textes assez percutants et poétiques.
Le samedi, toujours à la même heure, il y a donc un concert de Samuel Covell.
Oui, alors ce serait pour moi la proposition qui pourrait se rattacher la plus à ce qu'on pourrait appeler la chanson française, mais dans une esthétique très rock aussi, mais avec un poète. Samuel Covell, c'est un poète et un beau chanteur. Et c'est un duo, donc ils sont deux, mais à deux, ils arrivent vraiment à nous emmener dans cet univers rock, folk des 70s un peu.
Et le grand concert de clôture qui aura lieu le dimanche 30 juillet à 21h30 cette fois-ci.
Voilà, là c'est le concert de clôture après le banquet festif qui a lieu à 20h, où on pousse les tables, où on réempile les chaises et où on espère bien danser devant Al Kabaya. Donc quatre garçons avec un rythme, un sens de la fête et un sens d'une musique très généreuse. Donc pour finir en beauté le festival 19e édition.
On ne peut que vous encourager à découvrir la plaquette qui a été éditée et puis aussi à écouter le reportage sur notre site radioroyant.fr avec sa directrice artistique qui nous détaille les spectacles au jour le jour. Poursuite de ces animations en ce vendredi 28 juillet avec le marché artisanal de la Chapelle en Vercors, un marché artisanal réservé aux artisans d'art et des producteurs locaux aussi qui viennent s'adjoindre à cette belle proposition estivale où le village de la Chapelle est bien animé et tous ils sont sélectionnés pour la qualité de leur création. C'est par l'association Les Artisans de Provence que cela s'organise de 9h30 à 19h demain vendredi dans le centre village de la Chapelle. Également au programme en ce vendredi à Pont-en-Royans, les vendredis du Parvis qui accueillent pour cette semaine Moustache avec la possibilité de combiner un petit menu bistronomique très sympathique en écoutant la musique à partir de 19h, place du Breuil, donc sur le parvis du musée de l'eau. Si vous souhaitez accéder uniquement au concert, c'est à partir de 21h. et découvrir Moustache, l'incontournable. Il s'appelle Moustache parce que justement, une belle moustache, ce qui donne vraiment le côté très typé de ce personnage. Donc, réservation pour terminer au 04 76 36 18 98. Nous poursuivons notre agenda avec cette journée de samedi 29 juillet à Echevi pour une balade comptée, atelier, balade botanique dans le jardin, dans cette belle guinguette dans la vallée de la Vernaison, avec les petits qui seront bien entendu au centre des préoccupations, puisque de 15h à 16h il sera question d'accueil pour les maternelles et de 16h30 à 17h30 pour les primaires, donc des visites qui leur sont dédiées. Réservation obligatoire auprès de la guinguette 04 75 48 69 86. Également au menu de ce samedi, c'est un marché de producteurs à Saint-Bonnet-de-Chavagne, Chava Marché. Voilà, un peu de l'astuce dans l'intitulé, c'est au château de l'Artaudière samedi. Saint-Romain organise ses soirées d'été, karaoké et soirées dansantes à la table du Marandan pour une belle soirée en sud Grésivaudan. Donc pour ce samedi soir. Samedi également au programme un film à Vassieu-en-Vercors en projection au musée départemental de la Résistance à 17h. Il s'agira de Blanche et Marie, un film de Jacques Renard, réalisé en 1985. L'histoire donc de Blanche qui décide de rejoindre à la Résistance son mari en compagnie de Marie, la fille du coiffeur. Voilà pour l'intrigue de cette séance à Vassieu. À Rochechinard, ce même jour, ce samedi 29 juillet, une conférence dans un de nos sites partenaires, c'est la Maison Musée du Royan à Rochechinard, conférence de Jocelyn Derbier sur l'histoire du château de Rochechinard. Et a priori, d'après ce que j'ai pu comprendre, il nous apprendra des choses qui ne sont pas véritablement connues du grand public. C'est à 19h au Musée du Royan. C'est gratuit pour cette conférence. Puisque nous parlons de ce musée, cette mémoire de Rochechinard, musée aux 2000 objets, et bien découvrir justement la suite de ces objets. C'est notre deuxième chronique touristique qui fait sa quatrième étape dans le musée de Rochechinard en compagnie de Alain Derbier qui, il y a quelques années, nous faisait une très très belle visite patrimoniale dans cette maison avec la vue imprenable sur le Royan à Rochechinard. Chronique touristique à la maison musée du Royan à Rochechinard. Découverte de l'exposition permanente avec Alain Derbier.
On passe à la pièce suivante. Qui était autrefois, puisque là on est dans le domaine public, tout à l'heure on était dans le domaine privé de monsieur le curé, et puis donc pour la ferme, ça serait fini, les pièces, on n'en parle plus. Ici, eh bien, puisqu'on est dans le domaine public, il y a une porte qui entre dans ce qu'on appelle la chambre de la bonne de monsieur le curé. Alors un autre genre de tableau donc de ce monsieur Alain Schmitt, je n'ai pas dit son nom, un peintre de la région lyonnaise. Voilà, donc ici on a des représentations de paysages assez beaux, des couleurs assez fortes, assez charmantes, mais aussi toujours cette évocation campagnarde avec la faucheuse Abette qui est là coincée dans les ronces. Ou cette râteleuse, elle aussi, complètement désuète aujourd'hui. Mais par contre, beaucoup de charme, beaucoup d'allure dans ce tableau qui représente donc le retour du champ. Hein, on dirait que les vaches dansent et on rentre, c'est fini, l'agriculteur aussi, c'est pareil. Et il y a les sillons derrière. Très moment, très fort et très beau. Voilà pour l'exposition d'Alain Schmitt qui sera là donc jusqu'au 16 août. Alors nous voici donc maintenant dans une pièce très particulière dans cet ancien presbytère devenu musée. C'est ce qu'on appelle la salle du puits. Le puits de monsieur le curé était couvert. Des poutres qui ne reçoivent pas de plancher parce que les paroissiens de Rochechinard n'étaient pas très riches ou ne voulaient pas se montrer très fortunés. Donc on faisait pas des dons en argent à monsieur le curé, de denier du culte, mais très souvent on offrait bien soit du vin, soit du porc, soit diverses choses. Donc si c'était des produits frais, ils allaient être conservés dans ces caves, comme dans les caves d'un privé. Mais les gens les plus pauvres, ou qui voulaient pas être très généreux envers leurs prêtres, eh bien offraient du bois. Donc c'est sur ces poutres qu'étaient déposées des branches, des morceaux de bois et des fagots. Voilà. Donc ici, cette pièce est notre pièce de transition, c'est-à-dire chaque fois que l'on fait une étude ou un travail, eh bien c'est ici que cette étude est représentée pendant quelques temps. Nous avions eu jusque-là en relation avec, parce qu'on travaille très très en relation avec les associations locales, alors nous étions à Bobo, c'était avec l'association de jumelage, à la fin de l'été on va avoir une exposition en relation avec l'association de patrimoine de Saint-Jean, ainsi de suite, hein. Donc énormément en relation avec d'autres associations. Et là, l'exposition qui est ici en ce moment, la précédente, c'était sur les plats typiques du Royan, suite à la production, à la publication du livre par la bibliothèque, le petit livre sur les recettes. Là, par contre, c'est aussi un grand moment important pour l'histoire du Royan, qui est représenté ici, puisque c'est l'histoire du fromage. Et là aussi, nous participions à quelque chose de collectif. C'était la fameuse fête du bleu, l'année qu'elle était à Léoncelle. Alors, nous trouvons donc ici l'évolution de ces techniques fromagères gébeurières. Jusqu'à la deuxième moitié du 19e siècle, on a simplement des outils, des choses, des objets qui sont les objets du cru, de la terre, du bois, de la méchante tôle étamée, c'est tout. On va traire la chèvre, son lait sera récupéré dans cette magnifique bidon que l'on appelle une diète, qui peut servir aussi pour l'eau. Ensuite, sera versé dans la cruche en terre, et on mettra le fromage à cailler. Quand le fromage aura caillé, on le versera donc dans ces très belles faisselles en terre. Les plus anciennes sont les brunes, carrément. Sur ce, et le fromage s'écoulera, fromage blanc. Et ensuite, lorsque le fromage sera un peu plus ferme, très écoulé, eh bien, il sera salé. Et ensuite déposé, c'est pas un garde-manger, c'est un panier que l'on pendait l'été dans les combles, l'hiver dans la cuisine. Voilà, donc ça se lève et c'était rempli de paille. Ce panier s'appelle un panier Tumaro, un panier atome.
À suivre cette chronique touristique à la maison-musée de Rochechinard, une visite commentée par Alain Derbier. Dernière étape dans cette maison-musée de Rochechinard, maison-musée du Royan, demain en compagnie d'Alain Derbier, pour découvrir encore tout ce qui concernait la soie, en fait, c'est un lapsus, mais les deux sont valables. Donc, une maison-musée ouverte toute l'année dans l'ancien presbytère de Rochechinard, tous les jours, sauf le lundi, de 15h à 19h. Je vous précisais la conférence de Jocelyn Derbier pour ce samedi 29 juillet à 19h, mais il y aura d'autres moments aussi organisés par cette maison-musée, le 8 août avec un atelier d'écriture par Anne Dacosta, et puis plus blues le vendredi 11 août, le grand master blues, la blues attitude à partir de 19h devant la maison-musée, et enfin la brocante avec des vieux objets du 20e siècle. Et c'est donc de 8h à 16h le dimanche 20 août. Et enfin, pour terminer, le jeudi 24 août à 19h, lecture et projection du film Le promeneur de Saint-Jean de Fabien Dacosta. Il s'agira d'un hommage à Jean Vignat pour cette dernière soirée. Jean Vignat, auteur qui a résidé à Saint-Jean-en-Royans et aussi très prolifique puisqu'il a réalisé de nombreux ouvrages de poésie. C'est la fin de ce magazine touristique. Déjà, merci à Florian pour la technique. Nous sommes toujours depuis la terrasse de la grotte de Choranche. Son site, c'est assez exceptionnel. Et vous dire, avec cette belle vue et la musique en fond, nos partenaires qui nous aident durant toute cette année et cet été 2023 à réaliser ce magazine. Le musée de l'eau de Pont-en-Royans, le grand séchoir Maison du Pays de la Noix à Vinay, la maison-musée de Rochechinard, le Mémorial de la Résistance à Vassieux-en-Vercors, le Musée de la Préhistoire du Vercors et le Musée de la Résistance à Vassieux. Ainsi que le Jardin des Fontaines pétrifiantes à la Saône, la Grotte de Thaïs, le Batoirou à Saint-Nazaire en Royan, la Grotte de Chauranche, le Festival Texte en l'air à Saint-Antoine-l'Abbaye, le Festival des Chapelles en Royan-Vercors et l'Office de Tourisme Vercors-Drôme, ses trois antennes, ainsi que le site Indians Valley à Bourg-Arbary. Nous allons refermer ce magazine en vous donnant rendez-vous demain, vendredi, pour le dernier magazine de la semaine. Très agréable séjour en Royan-Vercors et sur Grésivaudan avec Radio Royan-Vercors.